Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, Capot Diamant et Curium. Au programme, l'activité scientifique des Jésuites en Nouvelle-France. Et histoire d'ado, je suis asexuel et je m'assume. Bonne écoute.
L'activité scientifique des Jésuites en Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle. Un texte de Stéphane Martel, paru dans le numéro 142, été 2020, du magazine Capot Diamant. Fondée à Rome par Ignace de Loyola, 1491-1556, en 1540, la Compagnie de Jésus a été l'un des fers de lance intellectuels de la réforme catholique au XVIe et XVIIe siècle. Cet ordre religieux, voué aux missions intérieures et internationales, a fourni de grands savants à l'Europe, tant pour l'enseignement que pour la recherche. L'Amérique du Nord, comme toutes les terres de mission fréquentées par les Jésuites, a offert aux missionnaires un milieu neuf et passionnant pour l'observation de la nature et l'expérimentation. Enseignement des sciences chez les Jésuites du XVIe au XVIIIe siècle. Ignace de Loyola et ses premiers compagnons ont vécu dans un monde en profonde mutation. La découverte de continents nouveaux au-delà des océans et les réformes protestantes qui ont déchiré l'ancienne unité chrétienne ont ébranlé les cadres mentaux et intellectuels de l'Occident chrétien. Ils ont rapidement réalisé que la reconquête catholique passerait par une éducation chrétienne élargie à l'ensemble de la société. Une éducation renouvelée, moderne, dépouillée de la scolastique médiévale poussiéreuse des universités. Dans les collèges fondés par la Compagnie de Jésus dès le milieu du XVIe siècle, la formation des élèves était fondée sur une pédagogie humaniste, abreuvée à la philosophie et à la littérature de l'Antiquité, mais infléchie de façon à respecter les dogmes catholiques. Les sciences prenaient une place tout aussi centrale que la philosophie, les lettres et la théologie dans le système éducatif jésuite. L'apprentissage des sciences s'amorce dans les collèges en France dès la deuxième moitié du XVIe siècle. Ces matières sont alors enseignées au cours des deuxième et troisième années du programme de philosophie. Alors que la première année est réservée à la logique, en deuxième année, les élèves sont initiés aux notions de la physique. En troisième année, ils étudient les mathématiques qui comprennent l'arithmétique, la géométrie élémentaire et appliquée, puis enfin l'astronomie, la géographie et la gnomonique, l'étude des cadrans solaires. Jusque dans la première moitié du XVIIe siècle, le système aristotélicien règne en maître dans les collèges. Enseignants et étudiants commentent et débattent alors les plus importants traités d'Aristote, du ciel, de la génération et de la corruption, et physique. Mais sous l'apparente uniformité du cursus scolaire réglementé par le ratio Studiorum 1599, un intérêt marqué pour les nouvelles découvertes et théories scientifiques émerge peu à peu et prend de l'ampleur. La correspondance des professeurs jésuites avec d'autres savants européens et leurs propres expérimentations à l'aide d'instruments d'observation qui leur permettent de faire des découvertes inédites, ébranlent les savoirs traditionnels. Bien des professeurs continuent d'enseigner Aristote, mais en intégrant à leur cours des interprétations scientifiques nouvelles et modernes, ce qui n'a pas l'heure de plaire aux autorités de la Compagnie de Jésus. Dans ce bouillonnement intellectuel au sein des collèges, où se confrontent savoirs anciens et idées novatrices, où se heurtent des enseignants promouvant une science moderne et libre et d'autres qui défendent un immobilisme étroit, de grands savants jésuites se démarquent. Leurs travaux rayonnent à l'échelle européenne en astronomie, en botanique, en zoologie, en hydrographie et en géologie. Bien des élèves suivront les traces de ces maîtres pour projeter la pensée scientifique encore plus loin. René Descartes en est certainement l'exemple le plus connu. D'autres, qui adhéreront à la Compagnie, deviendront missionnaires, disponibles pour l'apostolat international. La Compagnie de Jésus promeut un engagement actif dans le monde. L'accent mis sur les sens et la sanctification des études crée chez ses membres les conditions idéales pour l'observation empirique et rationnelle du monde naturel. Les missionnaires ont colligé et accumulé une abondance formidable de connaissances inédites sur les cultures et les territoires méconnus ou inconnus, peut-être comme nulle autre communauté religieuse n'a pu le faire sous l'Ancien Régime. Leurs habiletés scientifiques en ont aussi fait des informateurs de premier ordre, ce qui leur a permis d'occuper une place centrale dans la logique coloniale de la France au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous écoutez L'activité scientifique des Jésuites en Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle, un texte de Stéphane Martel paru dans le numéro 142 été 2020 du magazine Cap au Diamant. Les sciences au service de la mission en Nouvelle-France. Les missionnaires apportent par-delà les mers leur bagage de connaissances scientifiques qu'ils savent mettre à profit. Ils contribuent largement à la circulation et au partage des découvertes scientifiques grâce aux réseaux internationaux de leur ordre. Aussi, leurs correspondances et leurs écrits, publiés annuellement, démontre une curiosité insatiable pour tout ce que les nouveaux territoires offrent en richesses naturelles et en découvertes potentielles. Non seulement ils s'intéressent aux Premières Nations qu'ils sont venus convertir au christianisme, mais ils décrivent avec rigueur la faune et la flore, les ressources géologiques et les phénomènes météorologiques et hydrographiques des territoires qu'ils traversent. Ils savent intéresser leurs lecteurs avides d'exotisme et de paysages lointains. Des spécimens naturels circulent entre l'Amérique et l'Europe pour enrichir les collections de naturalia des collèges, des jardins botaniques et des cabinets de curiosités. Aussi, l'intérêt que les évangélisateurs portent aux cultures des Premières Nations, en dépit des jugements de valeur et des a priorismes, et leur volonté d'apprendre les langues indigènes crée les conditions d'un dialogue transculturel favorable à l'acquisition de savoirs autochtones ancestraux. À ce chapitre, les Jésuites doivent beaucoup à leurs hôtes, qui les informent des propriétés agricoles, culinaires et médicinales des plantes. On ne citera qu'un exemple, celui de Joseph-François Lafitau, qui, en 1718, est le premier à reconnaître la parenté du ginseng du Canada, Panax quinquefolium, avec son cousin asiatique. La description de cette plante aux multiples vertus médicinales, qu'il doit essentiellement aux femmes de la nation Mohawk, soulève un immense intérêt en France et permet le développement d'un commerce fort lucratif entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Les Jésuites sont particulièrement fascinés par l'astronomie et ils partagent le fruit de leurs observations du cosmos tant dans leur réseau scientifique qu'avec leur fidèle lectorat. pour satisfaire aux désirs de quelques personnes qui nous ont demandé quelques observations des éclipses que nous remarquerions en ce pays, en voici une de lune fort remarquable qui nous apparut le soir du 14e d'avril de cette présente année 1642. Des missionnaires comme Paul le Jeune et Louis-Nicolas étudient la course du soleil, ce qui leur fait comprendre le décalage horaire entre Paris et Québec. Louis-Nicolas écrit à ce sujet. « Le jour est en France, 6 heures entières et un peu davantage plus tôt qu'aux Indes. J'en ai fait les épreuves par les éclipses marquées dans les almanachs. La chose est facile. On n'a qu'à remarquer à quelle heure il arrive en France. Et si on trouve qu'il n'arrive aux Indes qu'aux heures que je marque, ce que je dis sera démonstratif. » Au milieu du XVIIIe siècle, le père Joseph-Pierre de Bonnécamp ne se contente pas d'aménager un observatoire astronomique sur le toit du Collège de Québec, mais il entretient une correspondance scientifique avec Joseph-Nicolas Delisle, professeur en mathématiques au Collège de France et géographe de la marine. Il publie dans les mémoires de Trévoux le fruit de son observation d'une aurore boréale visible à Québec en 1746. On connaît l'excitation provoquée dans les milieux scientifiques en Europe par le passage de 2 comètes en 1664-1665. L'enthousiasme des Jésuites à Québec est tout aussi palpable, puisqu'ils suivent le parcours des corps célestes pendant plus d'un mois. Ils consignent, dans les relations de 1664, quelques observations qui pourront peut-être servir de fondement aux curieux pour en tirer quelques nouvelles connaissances. Le rapport qu'ils nous ont laissé de leurs observations témoigne de notions poussées en astronomie et en trigonométrie, ainsi que d'une rare maîtrise d'instruments complexes comme l'astrolabe et le quart de cercle. À titre d'exemple, le 23 décembre, ils écrivent « À 1h30 du matin, la hauteur de la comète estoie de 6 degrés 36 minutes. La hauteur de la constellation de Keleb à la Z ou du cœur du lion, 47 degrés 15 minutes et son azimut à la comète, 20 degrés 10 minutes. On trouve, par le calcul, l'ascension droite de la comète de 150 degrés 27 minutes. » Vous écoutez l'activité scientifique des Jésuites en Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle, un texte de Stéphane Martel, paru dans le numéro 142 été 2020 du magazine Cap au Diamant. Les connaissances scientifiques comme outil de conversion. Dès avant 1550, les premiers jésuites avaient remarqué la séduction qu'exerçait sur les élites chinoises la maîtrise des sciences astronomiques par les missionnaires. Ils sentaient également que ce prestige éveillait leur intérêt pour le christianisme. La démonstration d'une supériorité scientifique sera également une stratégie de conversion qu'utiliseront abondamment les missionnaires de la Compagnie de Jésus auprès des Premières Nations au Canada. Le père Jérôme Lallemand montre comment la connaissance du cosmos vaut aux missionnaires une sorte de respect mêlé de crainte qu'il sera facile d'exploiter. Sur ce que nous leur prédisons les éclipses de la Lune et du Soleil, dont ils ont beaucoup de peur, ils se sont imaginés que nous en étions les maîtres, que nous savions toutes les choses à advenir et que c'est nous qui en disposons. Paul le Jeune utilise à l'occasion son érudition scientifique pour ébranler l'autorité spirituelle des chamans inuits, qu'il considère comme des obstacles à l'adhésion des Premières Nations au christianisme. Le 10 janvier 1637, le même jésuite ébahit l'inou Makeabishtishiu en l'instruisant sur la nature des couleurs. Surtout, après une démonstration de la décomposition de la lumière à l'aide d'un verre trigonal. « Tu ne vois, lui dis-je, aucune couleur en ce verre. Mets-le sur tes yeux et tu le verras plein de belles couleurs qui proviendront de la lumière. » L'ayant appliqué à la venue et voyant une grande variété de couleurs, il s'écria « Vous êtes des Manitou, vous autres François, qui cognoissez le ciel et la terre. » Utilité des sciences dans la logique coloniale. Les grands espaces que les missionnaires parcouraient pour rejoindre les populations autochtones, leur rôle d'interprète et leur connaissance approfondie en géographie et en hydrographie ont fait d'eux de précieux alliés pour le gouvernement colonial dans l'exploration et la description de nouveaux territoires. L'hydrographe Jacques-Nicolas Bellin doit au calcul du père François-Xavier de Charlevoix d'avoir pu dresser des cartes améliorées de la région ceinturant les Grands Lacs. Le père Joseph-Pierre de Bonnécamp, qui accompagne en 1749 l'officier Pierre-Joseph Céloron de Blainville dans la vallée de l'Ohio, dresse une carte détaillée des régions explorées. Il arrive même que des jésuites se fassent prospecteurs en ressources minéralogiques, comme en 1669-1671, lorsqu'ils cherchent les affleurements de cuivre dans les régions entourant le lac supérieur. Les jésuites jouent également un rôle de première importance dans l'éducation scientifique en fondant le Collège de Québec en 1635. Dès la décennie 1660, l'établissement scolaire offre un programme d'études classiques, de théologie et de sciences comparables à ce que l'on retrouve dans les collèges de France. L'absence d'une faculté universitaire de médecine au Canada, les conditions difficiles dans la colonie et son isolement favorisent également l'enseignement de la médecine. En 1666, le journal des Jésuites mentionne la soutenance des deux premières thèses de philosophie par Pierre Francheville et Louis Joliette. Par ailleurs, ce dernier a été reconnu par la postérité comme un excellent cartographe, explorateur et hydrographe. Enfin, en 1708, les Jésuites de Québec obtiennent la direction de l'École royale d'hydrographie pour y enseigner les mathématiques, la physique et l'astronomie. Durant 130 ans, le Collège de Québec formera plus de 800 élèves et sera une véritable pépinière d'arpenteurs, cartographes, hydrographes, naturalistes, explorateurs et interprètes en Amérique du Nord. L'activité scientifique des Jésuites en Nouvelle-France s'inscrit dans un contexte international qui dépasse largement la dimension coloniale. La circulation des savoirs scientifiques et des spécimens naturels d'un continent à l'autre est facilitée par l'étendue de leurs réseaux internationaux. Ils nourrissent l'appétit d'un lectorat européen fasciné par les curiositas du Nouveau Monde, ce qui, incidemment, attire sympathie et appui financier pour leur mission outre-mer. Les connaissances scientifiques acquises profitent aussi grandement aux visées impérialistes de la France sur le continent nord-américain, notamment la description de nouveaux territoires et de leurs ressources naturelles, mais aussi la mise en place d'une école d'enseignement supérieur qui forme à Québec de jeunes hommes aux sciences et techniques utiles à l'exploration et au développement du continent. Bref, les missionnaires jésuites observent et expérimentent la nature conformément à leur solide éducation humaniste acquise dans les collèges de France, oscillant entre un traditionnalisme scientifique abreuvé aux auteurs anciens et une ouverture audacieuse aux nouveaux courants de pensée. Même à distance des grands foyers scientifiques de l'Europe, les jésuites contribuent à leur façon à la naissance de la science classique. Stéphane Martel est directeur adjoint et responsable de la recherche au site historique Marguerite Bourgeois. C'était l'activité scientifique des jésuites en Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle, un texte de Stéphane Martel, paru dans le numéro 142, été 2020, du magazine Cap au Diamant.
Histoire d'ado. Je suis asexuel et je m'assume. Un texte de Tania Saint-Laurent, paru le 10 février 2017 dans le magazine Curium. Témoignage de Liane, 17 ans. Nom fictif par souci de confidentialité. L'asexualité, c'est une orientation sexuelle, au même titre que l'homosexualité, l'hétérosexualité ou la bisexualité, qui se définit par une absence d'attraction sexuelle. Attention, ne pas ressentir d'attraction sexuelle ne veut pas nécessairement dire que nous ne sommes pas actifs sexuellement, et surtout, être asexuel ne rend pas incapable d'aimer. Personnellement, je ne suis jamais tombée amoureuse de quelqu'un. Il y a un gars que je trouve cute et avec qui je m'entends bien, mais je ne ressens rien de romantique à son égard. Quoique ses sentiments pourraient peut-être se développer s'ils étaient cultivés. Je voudrais bien tomber amoureuse. Parfois, j'imagine, on marcherait main dans la main, on ferait des batailles d'oreillers, on se collerait devant la télé, on s'embrasserait sans la langue. Et on garderait tous les deux nos sous-vêtements. Je ne ressens jamais l'envie d'embrasser spontanément quelqu'un, ni de toucher ou caresser. Vous ressentez vraiment ça, vous? Les frissons qui parcourent le corps quand deux mains se touchent dans le bol de pop-corn, ça existe juste dans les films pour moi. La première fois que j'ai lu à propos de l'asexualité, j'ai pris conscience que la plupart des gens pensent au sexe. À tout le moins, ils y pensent parfois. C'est votre cas, j'imagine. Je n'ai pas osé ce jour-là me dire que j'étais carrément asexuel. C'était trop confrontant. Je me suis donc dit que j'étais une hétérosexuelle pas intéressée au sexe. Même si je n'ai jamais vraiment été en amour avec quelqu'un, je ne m'imagine pas du tout en couple avec une fille. Or, plus je lisais des descriptions et des témoignages de gens asexuels, plus je me reconnaissais. Le choc. Durant quelques semaines, j'ai essayé d'assimiler ce nouveau morceau d'information. Je me disais, les étiquettes, c'est pour les cannes de soupe. J'étais dans le déni total. Puis je suis tombé sur un billet de blog troublant. C'était exactement mes pensées, écrites mot pour mot. Ce jour-là, j'ai réalisé que je suis, en effet, asexuel. Récemment, je me suis créé un compte Instagram anonyme pour pouvoir échanger avec d'autres gens de la communauté asexuelle. J'espère rejoindre le groupe LGBTQ de mon école l'année prochaine en tant qu'asexuel. Je ne suis pas encore très loin dans mon processus, mais ça ne m'empêche pas d'être fier de qui je suis. Après avoir lu le témoignage de Liane, la sexologue Tania Saint-Laurent propose cette réflexion. Il peut y avoir plusieurs parties de soi-même qu'on ne connaît pas ou qu'on commence à découvrir à l'adolescence. Certaines parties de notre identité se définissent plus vite et sont très claires, alors que d'autres sont moins évidentes et plus difficiles à comprendre. L'orientation sexuelle, ce n'est pas uniquement le fait d'être attiré par les gars, les filles ou les deux. C'est un ensemble de points qui peuvent nous aider à comprendre qui l'on est. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les pistes de réflexion suivantes pour vous questionner et en apprendre davantage sur vous-même. Attirance amoureuse. Ah, l'amour! Il est possible que vous ayez déjà ressenti des émotions très intenses envers quelqu'un ou pas. Attirance sexuelle. Ici, on parle spécifiquement d'une attirance physique, c'est-à-dire l'envie de partager des rapprochements physiques avec quelqu'un. Fantasme. Ce sont ces mini-scénarios imaginaires dans lesquels on peut retrouver des gens qui nous intéressent, des rapprochements amoureux et ou sexuels. Ils nous apparaissent souvent sans qu'on le veuille. On ne les contrôle pas vraiment. Vivre une relation amoureuse. C'est partager une relation amoureuse, mais aussi s'imaginer ou avoir envie d'être en couple avec quelqu'un. Les expériences nous aideront aussi à préciser nos goûts, le genre de personne vers qui on est attiré, notre orientation sexuelle, etc. En regardant tous ces éléments, on comprend mieux pourquoi tout n'est pas toujours clair et surtout, pourquoi ça ne l'est pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Vous êtes en constante évolution. Il est donc possible que vous ne voyez pas tout cela de la même manière dans 2 ou 5 ans. La bonne nouvelle, c'est que plus le temps avance, mieux on se connaît et plus on est à l'aise d'être soi-même. C'était « Histoire d'ado, je suis asexuel et je m'assume », un texte de Tania Saint-Laurent, paru le 10 février 2017 dans le magazine Curium.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Gilbert Lepage à la lecture, Anne Hébert et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.